Peggy 18.
On n'est pas là pour faire un Tarantino, on est sur un porno, il n'y a rien de plus simple.
Salut, moi c'est Lilou, et aujourd'hui on va passer un petit quart d'heure ensemble. Comme t'as pu le comprendre, ce podcast n'est pas destiné à toutes les oreilles. Ensemble aujourd'hui, on va parler cul, on va parler sexualité, on va parler baise, mais surtout, on va parler pornographie. Et pour ce faire, je suis pas seule. Je suis accompagnée de Louis Novitch, célèbre acteur porno dans la communauté homosexuelle. Je suis sûre que tu te demandes pourquoi on veut entrer dans la pornographie et surtout comment on fait. Je vais laisser Louis répondre à ta question tout de suite.
Je vais présenter en fait comment je suis rentrée dans le porno précisément. Déjà, le porno a joué sur ma sexualité, enfin, a permis de pouvoir m'orienter, enfin, comprendre ma sexualité plutôt. Je me suis dit, bah, tiens, c'est intéressant ce qu'ils font, etc. Et puis, j'étais toujours un petit peu dans le milieu artistique, hein, faire du théâtre, du chant, des choses comme ça. Puis, une petite idée germe dans la tête de, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas en tourner un? C'est un peu le côté excitant de la chose, de se dire, tiens, se mettre devant la caméra, voilà. En gros, faire un truc à trois, mais où le troisième est film et caméraman. Un petit peu le côté excitant, voilà, grand fantasme que je pense la plupart des gens ont. Sorti de lycée, il faut forcément avoir 18 ans, être majeur, vacciné. Enfin bref, c'est la légalité. Et, j'ai commencé à travailler parce que je n'avais pas eu les diplômes que je voulais. Ça me trottait dans la tête le fait de faire de l'argent facile, vraiment. Et pendant ces études, je me suis émancipé. Donc, je suis parti de chez mes parents, j'ai eu mon appartement tout seul. En gros, je devais rendre de compte à personne. Et c'était ce déclic-là qui m'a fait que, bah, en fait, je vais faire ce que j'ai envie. Donc, c'est passé par le porno. Moi, à la base, c'était vraiment sur un but de découverte et puis de fantasme. Et en fait, j'ai commencé le porno par des scènes non sexuelles. Voilà, donc j'ai commencé chez SPK, m'ayant appelé, donc c'est le Spanking Club en fait. Spanking qui est le club de la fessée. Hein, où ils m'ont appelé, des gens sur la question de avec qui on baise quoi. Et ils me disent personne. Je comprends pas. Ils me disent non, en fait le concept c'est qu'il n'y a pas de scène de cul. Et nous, leur but de vente c'était la fessée. Bon, je me suis dit, bon, allez, c'est pour une petite fessée, ça va, ça devrait aller. En plus, l'appât du gain m'a été relativement facile. C'est une des prods qui paye le plus, bien entendu, parce qu'ils font ils font partie de la case BDSM. Et en même temps, je continue à m'inscrire. Et il y a eu Gay French Kiss, le deuxième, qui m'a appelé, qui me dit bah, écoute, si tu veux, on tourne. Tu viens à Paname, tu viens à Paris, on tourne. C'est là où j'ai fait mon vrai porno, mon vrai premier porno où il y avait pénétration.
Du coup, comment on fait pour être appelé par le Spanking Club ou par Gay French Kiss?
Je me suis retrouvé à m'inscrire. Donc, chose la plus simple du monde pour trouver un bon emploi, c'est aller sur les pages officielles des pornos, pas sur Pornhub, mais sur vraiment les gros comptes. Par exemple, je pense à Diablex, je pense à SPK. On va sur leurs pages, dans les pages, et du coup, tout en bas, on peut donc, voir les acteurs et derrière, become a model. Du coup, voilà, on s'inscrit, on remplit une fiche casting avec, bon, ben, je ne cache pas, nom, âge, photo, taille du membre, en érection, pas en érection, il faut avoir, du coup, les photos nues, habillées, etc. Et puis, derrière, on écrit pourquoi est-ce qu'on veut faire du porno.
Il faut savoir que la pornographie est totalement légale, que c'est un vrai métier et que les acteurs doivent déclarer leurs revenus et donc déclarer leurs films. Mais alors, quand on veut déclarer le fait d'avoir tourné dans un film pornographique, qu'est-ce qu'on écrit sur notre fiche d'imposition? Quel est réellement le vrai statut social d'un acteur porno?
Enregistrant ton quatrième temps du spectacle, acteur. Dans l'intermittent du spectacle, donc il y a chanteur, il y a acteur. Par contre, du coup, dans le porno, vu que c'est un film à visée pornographique, eh ben, je suis acteur comme Brad Pitt.
Évidemment. Faire partie du milieu de la pornographie n'excluant rien d'être en couple. On peut donc s'interroger et se demander s'il est plus simple de trouver un compagnon en exerçant ce métier ou si au contraire cela rend la tâche beaucoup plus difficile. Et une fois ce compagnon trouvé, comment est-ce que lui voit la pornographie et voit le fait que son petit ami soit acteur porno?
Ça pose toujours souci sur le « ah ouais, mais voilà, sortir avec un mec qui a fait du porno qui en fait, très compliqué pour eux. » Sur le début, ça pose jamais de... Si la personne est amoureuse, ça pose jamais de soucis. Sachant qu'elle a toujours une part de il va arrêter quand il sera avec moi. Sauf qu'en fait, moi, je dis dès le départ, je n'arrêterai pas le porno, ou alors c'est que j'en ferai moins, mais j'en ferai toujours. Après, les personnes aussi, du coup, ça veut dire que je vais coucher avec un autre. Ça pose la question, en fait, du couple libre, entre guillemets, ou au couple exclusif, de ne pas aller voir ailleurs. Être en couple, une fois qu'on est acteur porno, trop simple. Trop simple de trouver quelqu'un à partenaire. Bah, il y a le fait de, t'es acteur porno, vas-y, on couche ensemble. On pense qu'on est quelqu'un de facile derrière.
C'est pour cette raison que souvent, les acteurs porno sont en couple avec d'autres acteurs porno, parce que de cette manière, ils connaissent l'activité de l'autre et ils savent ce qu'il en découle. Néanmoins, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que le porno, ce que vous voyez dans les films, n'est pas du tout la réalité. Il y a une réelle différence entre faire l'amour chez soi et baiser devant une caméra.
En fait, on ne fait pas pareil. Il y a faire l'amour avec son homme. Il y a à partager la vie avec son homme, donc ça pour moi c'est une relation de couple, et il y a aller sur un porno et aller faire ce qu'on nous demande. C'est pas la même chose. Porno, clairement, c'est une caméra avec deux gens qui baisent. Et vraiment baiser. C'est vraiment un coup de queue. C'est vraiment salut, ça va, 4-5 bisous, on chauffe l'autre. Une fois que l'autre a une bonne trique, on le pompe. Une fois qu'il est bien pompé, etc., surtout pas qu'il gicle, le passif ou l'actif ou les versa. Voilà, font leur donc tapent l'un dans l'autre, et voilà. Et une fois que c'est bien tapé, bah, du coup, il y a éjaculation. Voilà. Avec en plus de ça, c'est bah attends 2 secondes, écarte-toi, pose ta main là, machin, ça. Donc, toutes les contraintes qu'on nous dit, c'est voilà. Il y a plein de contraintes, faut réfléchir à plein de choses. Donc, en plus de ça, généralement, ça fait déborder.
On vient tout juste d'aborder la notion de contrainte. Mais du coup, ça voudrait dire que le producteur, qu'il vienne de chez Gay French Kiss, de chez French Twinks ou de chez Crunch Boy par exemple, impose des scènes à ses acteurs? Eh bien, c'est un propos à nuancer. Dans la pornographie hétérosexuelle, c'est souvent le cas. La pornographie hétérosexuelle est très codée. Les scènes sont souvent prévues à l'avance et les producteurs imposent des positions et des gestes à leurs acteurs. Dans la pornographie gay, par contre, il y a une plus grande place pour la liberté et les acteurs sont beaucoup plus libres d'être spontanés. Louise va nous le prouver en nous parlant de sa dernière scène, tournée début d'année pour Diablex.
On nous dit grosso modo ce qu'on veut. Un acte dans la piscine. Bon, je vais parler de la dernière scène, du dernier porno qu'on a tourné chez Diablex. C'était dans une piscine. Il y a film dans une piscine. Je veux des bisous, des machins. Vous allez vous baigner, etc. Le concept, c'est autour de la piscine. Donc, on arrive, on me détend, il me chauffe, etc. Je suis encore habillé, je me déshabille. On va dans la piscine à poil. Pif, paf, pouf, terminé. Après, bisous dans la piscine. Et puis, sur le rebord, on avait à peu près prévu deux, trois trucs. Par exemple, bah, tiens, sur le rebord, ça pourrait être sympa. Bah, tiens, sur la chaise longue, ça pourrait être sympa. On va faire des belles images. Terminé. Après, que je prenne en leuleux, que je le prenne en missionnaire, que je le peine sur le côté, en cuillère, etc. Enfin, on s'en fout tant qu'on kiffe. Ou aussi, au moment venu, bah, du coup, on réfléchit, porno, on réfléchit, caméra, on réfléchit, vision. Et du coup, on se dit, mais qu'est-ce que j'aimerais voir, moi, en tant que public? Donc, du coup, on se tourne et par exemple, il y a des choses qui n'étaient pas prévues.
Quand on demande à des hétérosexuels ou à des gens extérieurs à la communauté ce qu'ils pensent de la communauté LGBTQ+, donc à savoir lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel, transgenre et toute autre identité de genre ou de sexualité, les mêmes réponses reviennent souvent. Les gens assimilent rapidement cette communauté à la drogue, à l'infidélité et à la sexualité déviante. Les quelques rapports que j'ai trouvés parlant de la pornographie reportent exactement les mêmes données. Les gens assimilent les acteurs porno à des gens sales, à des gens drogués, infidèles, et qui eux-mêmes ont des pratiques déviantes. Évidemment, c'est un propos qu'il faut tout à fait nuancer. Déjà, si l'on prend l'aspect sale, il ne faut pas oublier que pour tous les acteurs, la pornographie est un choix, et qu'ils sont tous consentants de faire ce qu'ils font dans les vidéos. Ensuite, malheureusement, oui, il y a de la drogue, il peut y avoir une sexualité déviante. Comme dans tout, il y a du bon et du mauvais, et nous allons voir ça tout de suite avec Loïs.
Dans le porno, c'est un milieu, donc déjà, faut remettre les choses dans son contexte. Le porno est un milieu du sexe. On est des travailleurs du sexe. Regardez les prostituées et les escortes. Généralement, certaines sont sous-produits. Parce que bah, du coup, faut un détachement et parce que du coup, bah, ils n'y arrivent pas sinon. Je voudrais juste citer l'actualité, en fait, sans pointer du doigt aucune prod. Il y a un acteur porno qui est décédé récemment d'une prise de stupéfiant. qui tournait dans une grosse prod française. Je sais que dans certaines prods, il y a des stupéfiants qui tournent relativement en libre accès pour tout le monde, même des acteurs qui n'en ont pas forcément besoin, ou voilà, donc elle est vraiment en libre accès sur une table. Il y a des prods qui interdisent vraiment toute substance, par exemple, je pense à Diablex, qui refuse de tourner avec des gens qui prennent des stupéfiants. Et il n'y a pas de stupéfiants qui rentrent dans la maison où on tourne, enfin où on est logé et où on tourne, c'est interdiction.
Et entre acteurs, est-ce qu'il se passe des trucs en dehors des scènes filmées?
Après, on couche, oui, il se passe des trucs entre acteurs, bien sûr. Bien sûr, parce qu'un porno reste un porno, et puis généralement, juste après, on ne peut plus, hein, enfin, ou ne serait-ce que hors caméra, hors champ, pour pouvoir s'exciter. Il y a le côté porno où on baise. Et on fait ce qu'on doit faire, on fait notre travail. Après, quand on va par exemple sous la couette, c'est très très simple, hein, comme chacun pourrait coucher chez lui. Voilà. Ils sont pas à quatre, ils partent tous. Hein.
Aujourd'hui, en 2020, on commence à en parler moins, et surtout, le VIH n'est plus explicitement attribué à la communauté gay. Et pourtant, il est toujours bien présent. Quand on pense gay, on pense aussi manque de protection. On pense que beaucoup couchent sans capote, et qu'ils se méfient très peu des maladies sexuellement transmissibles. Ça, c'est un cliché généralisé. Et alors, évidemment, on se dit que tiens, s'ils sont comme ça dans leur vie, pourquoi ils ne le seraient pas dans le porno? Et on va voir avec Loïs Novitch si réellement la capote est obligatoire dans le porno et comment faire pour se protéger du VIH.
Alors, oui, on fait plein de scènes bareback. Plein de scènes bareback, c'est-à-dire sans capote. Mais plein, hein. Moi, je suis le premier à en faire. J'adore ça. Hein. C'est génial. Parce que la capote me fait débander, clairement. Mais en fait, je suis suivi tous les 3 mois. Même dans mes relations, je couche sous préservatif. Je suis suivi tous les 3 mois. Je suis sous PrEP. Donc, c'est le dispositif, en fait, du coup, qui empêche juste le VIH de nous contaminer. En fait, les prods imposent le préservatif. Enfin, les prods demandent le préservatif. Si les gars veulent faire sans, c'est le problème des gars. Après, l'imposition du bareback, ça veut dire test récent ou du jour même. Ça veut dire test 3 mois après. C'est très encadré, hein. Par exemple, je sais que Rat King fait du bareback et il demande des tests à moins d'un mois. Enfin, quand je suis allé à Chigabek, j'avais un test de moins d'un mois.
Pour faire ce podcast, j'ai fait des recherches, beaucoup de recherches, et pourtant, il est très compliqué de trouver un quelconque chiffre sur la pornographie, comme si les gens se refusaient d'en parler.
Les gens voient toujours ça d'un œil un petit peu noir. Pourquoi? Clairement, j'ai la réponse. Hein, c'est parce qu'en fait, c'est un tabou. C'est un tabou et c'est des choses qu'on ne connaît pas, en fait, vraiment. On ne connaît pas vraiment. Donc, par contre, du coup, ceux qui regardent un peu d'un œil noir, c'est que c'est un tabou parce que le sexe, en général, est un tabou dans les pays francophones. Donc, ça, c'est sûr. C'est un tabou dans les pays francophones. On ne parle pas de sexe. On ne fait pas de sexe. On est encore très prude, dû à la religion et l'éducation, bien entendu, très prude qu'on a pu avoir, même si maintenant les langues se délient de plus en plus. C'est encore un gros, gros tabou, de parler de sexe.
Comme vous pouvez l'imaginer, la pornographie est un métier de contact, ce qui fait qu'évidemment, pendant cette période de pandémie, plus aucune production n'a pu tourner de film. Il est évident qu'après le Covid, de nombreuses productions vont s'y remettre et de nombreux films vont être de nouveau tournés. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, à toi, Loïs Novitch, dans l'avenir en tant qu'acteur?
Si je pouvais en vivre, j'en vivrais. Et de toute façon, je vais continuer. Et du coup, je sais que si je peux en vivre, j'en vivrai. Ou alors en vivre, mais pas en tant qu'acteur, en tant que réalisateur. J'aimerais bien voir de l'autre côté, être côté caméra, parce que je sais comment ça se tourne, je sais comment ça se fait. Et du coup, bah, j'ai plein d'idées.
On va terminer ici ce petit quart d'heure passé ensemble. J'espère que cette incursion au plus profond de la pornographie vous aura plu, que vous avez peut-être changé d'avis sur les acteurs, voire même que ça vous a donné des idées, qui sait? C'est pas moi qui vais clôturer, mais je vais laisser la parole à Alexis Tivoli, acteur porno gay qui a donné une interview pour le HuffPost. Au revoir et peut-être à bientôt, dans une suite, pourquoi pas.
Ce que vous voyez dans les tournages et sur les vidéos, ça reste du cinéma par des acteurs confirmés professionnels qui sont consentants et qui savent ce qu'ils font. Mais ce n'est pas la réalité. Ça doit rester un fantasme. C'est ça qui fait la beauté de notre cinéma. Et un peu comme pour les cascades, il ne faut pas essayer de reproduire ça à la maison, ou en tout cas, pas tout.
Mais t'as l'angoût, tu sais. Non, ne t'arrête pas. Continue de lécher. Que j'aime quand tu fais ça.